bonjour à tous. Alors que les mouvements sociaux se poursuivent en France, mais aussi au Chili et au Liban, nous dédions cette semaine aux classes moyennes.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Elles sont plus que jamais au centre des débats, mais leur définition continue de diviser les chercheurs en sciences sociales. Les classes moyennes sont caractérisées tantôt par un niveau de revenu, tantôt par une catégorie d'emploi ou un sentiment d'appartenance. Autant de critères qui tentent de saisir ce groupe social hanté par la peur du déclassement. Des populations ni riches ni pauvres qui se sont réveillées un peu partout dans le monde. Mais d'où viennent-elles et quand ont-elles vraiment émergé en France? C'est la question qui va nous occuper aujourd'hui. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler d'ascension sociale avant et après la Révolution française en compagnie de Gérard Béor, historien, directeur d'études à l'EHESS et au CNRS, en compagnie également de Laurence Croque, enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Nanterre, co-directrice de l'ouvrage « Mobilité et transmission dans les sociétés de l'Europe moderne » paru aux presses universitaires de Rennes. À 14h50, on retrouvera le journal de l'Écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Gérard Béor et Laurence Croque.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On ouvre cette émission avec Alexis de Tocqueville. Si les Français qui firent la Révolution étaient plus incrédules que nous en fait de religion, il leur restait du moins une croyance admirable qui nous manque. Ils croyaient en eux-mêmes. Ils ne doutaient pas de la perfectibilité, de la puissance de l'homme. Ils se passionnaient volontiers pour sa gloire. Ils avaient foi dans sa vertu. Ils mettaient dans leur propre force cette confiance orgueilleuse, qui mène souvent à l'erreur, mais sans laquelle un peuple n'est capable que de servir. Ils ne doutaient point qu'ils ne fussent appelés à transformer la société et à régénérer notre espèce. Ces sentiments et ces passions étaient devenus pour eux comme une sorte de religion nouvelle, qui, produisant quelques-uns des grands effets qu'on a vu les religions produire, les arrachait à l'égoïsme individuel, les poussait jusqu'à l'héroïsme et au dévouement, et les rendait souvent comme insensibles à tous ces petits biens qui nous possèdent. J'ai beaucoup étudié l'histoire, et j'ose affirmer que je n'y ai jamais rencontré de révolution où l'on ait pu voir au début, dans un aussi grand nombre d'hommes, un patriotisme plus sincère, plus de désintéressement, plus de vraie grandeur. Un extrait de l'Ancien Régime et la Révolution d'Alexis de Tocqueville, donc paru en 1856, et lu ici en direct par Aliette Auvin de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Gérard Béor, on peut voir déjà ce moment révolutionnaire comme l'expression des revendications d'une classe moyenne?
Alors le mot « classe moyenne » est plus ou moins impropre parce qu'on ne parle pas de classe moyenne, mais nous, historiens, on peut repérer des catégories sociales intermédiaires qui effectivement ont des aspirations, qui ont des revendications et qui effectivement veulent des changements. Alors, chaque fois qu'on fait ce genre de classification, c'est toujours violent. En fait, quand on fait des classifications, des nomenclatures, on prend un cutter et on découpe un morceau de chair sociale ou un morceau de tissu social pour créer une catégorie. Alors aujourd'hui, on fait ça avec les revenus. À l'époque, c'est impossible. Donc nous, historiens, à l'époque, on le fait plutôt avec des catégories sociales d'emploi, avec des activités, avec des types de professions ou de conditions sociales. Donc là-dedans, on y met la bourgeoisie, mais dans cette bourgeoisie, on va distinguer beaucoup la petite bourgeoisie, qui elle-même comprend à la fois des artisans boutiquiers et des petits officiers, des employés, des catégories sociales qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui. Ce sont les deux mêmes structures qui cimentent la classe moyenne. Les classes moyennes, il faut insister sur le pluriel. Et puis alors à côté, moi je prêche, puisqu'on a le droit de tout découper, je prêche pour dire qu'on ne peut pas exclure les 80% de paysans qui eux aussi ont leur classe moyenne.
Alors, on va pouvoir rentrer dans le détail tout au long de cette émission. Mais d'abord, Laurence Croque, un mot sur, effectivement, la difficulté à parler peut-être de classe moyenne avant le 19e siècle, alors même que c'est peut-être une réalité avant la Révolution française.
Je partage tout à fait les remarques de mon collègue. C'est-à-dire que pour l'Ancien Régime, on a plutôt l'habitude de parler de bourgeoisie dans la mesure où ce qui distingue les gens du peuple et la bourgeoisie, c'est la détention d'une épargne qui les met à l'abri des accidents de la vie, au moins pour quelques années. Et donc, ce sont des gens qui ont un niveau de revenu qui leur permet d'avoir du vin dans leur cave, d'avoir accès à un niveau de confort que les milieux populaires n'ont pas. Mais pour rebondir sur la citation de Tocqueville, ce qui est aussi impressionnant dans le moment révolutionnaire, c'est qu'en fait, il y a une espèce de convergence, peut-être pas d'une classe moyenne, mais en tout cas de différents milieux bourgeois qui sont peut-être pas mobilisés tous en faveur d'un projet commun, mais en tout cas qui partagent un rejet d'un certain nombre de formes politiques, sociales, en particulier le système corporatif, mais aussi d'autres structures.
Et c'est peut-être l'aboutissement de formes de mobilité sociale qui existent dès le 17e, le 18e siècle, on va y venir. Mais d'abord, il faut peut-être préciser, donc Gérard Béor, que l'expression classe moyenne devient véritablement usuelle au 19e siècle, là où on parle de middle class en Angleterre depuis plus longtemps.
Oui, probablement, mais effectivement, cette catégorie émerge probablement plutôt pendant la monarchie de Juillet au 19e siècle, il va avoir un grand succès. Et ces classes moyennes, ensuite, on va les voir, elles sont pas très nombreuses, puisqu'au départ, on les considère comme urbaines, et la population urbaine est très minoritaire. Donc ces classes moyennes qui ont un point commun, finalement la propriété, le patrimoine, c'est quand même ça qui est important pour elles, elles vont proliférer, augmenter en nombre jusqu'à aujourd'hui. Encore faudrait-il s'entendre et distinguer à l'intérieur de ces classes moyennes beaucoup de strates. Et là, on rentre dans vraiment du charcutage statistique un peu compliqué.
Vous avez dit, Gérard Béor, qu'il ne fallait pas oublier les paysans dans cette catégorie des classes moyennes. Justement, on va voir que les possibilités d'ascension sociale existent déjà dans la société d'ordre de l'Ancien Régime, existent dans les campagnes. Et cela peut-être malgré les représentations de campagnes frappées par la misère. Dans le film Ridicule, Grégoire Ponce-Ludon de Malavoie, qui est un jeune aristocrate incarné par Charles Berling, vient à Versailles plaider la cause des paysans des marais de la Dombe décimés par les épidémies.
Que sollicitez-vous à Versailles ?
La charge d'assainir les marais de la Dombe, un paradis pour les moustiques. La vie d'un paysan n'y dépasse pas 35 ans.
Pauvres gens, comme un malheur ne vient jamais seul, leur simple évocation provoque l'ennui.
C'est que voyez-vous, monsieur, les paysans ne nourrissent pas seulement les moustiques, ils nourrissent aussi les aristocrates.
Vos premières armes, monsieur, peuvent nous donner quelque espoir.
Ce méchant petit abbé est un intime de la reine, et je m'en suis fait un ennemi.
C'est le bel esprit qui ouvre les portes, et vous n'en êtes pas dépourvu.
Qui se soucie du pays de Dombes ?
Ah, personne d'autre que vous, ça. Bien sûr, mais patience. Si la cour s'intéresse à votre personne, alors le pays de Dombes aura ses entrées à Versailles.
Gérard Béor, qu'est-ce que ce film, cet extrait, nous dit des représentations des paysans sous l'Ancien Régime ?
Il nous dit des choses qui sont la réalité, c'est-à-dire qu'il existe toute une catégorie de paysans très pauvres qui vivent dans des conditions extrêmement misérables, même si c'est plutôt un héritage d'un XVIIe siècle qui a été vraiment très compliqué. Au XVIIIe siècle, les choses sont un peu moins crispées, mais c'est vrai qu'il faut parler de société paysanne au pluriel. Et donc, à côté de ces catégories qui sont au bord toujours de la famine et de la maladie, il y a des catégories sociales intermédiaires qui se sont constituées en pariant sur la spécialisation, sur une petite production marchande qui leur permette d'émerger, même s'ils ne sont pas autonomes, même s'ils doivent souvent recourir à du travail salarié ou autre, ils ont l'impression, le statut au-dessus des journaliers, au-dessus des salariés agricoles, et un petit cran au-dessus qui leur permet de se positionner en situation intermédiaire entre les grands fermiers, une poignée de grands fermiers très riches, et la masse des journaliers paysans pauvres.
Est-ce que cette élévation est liée au fait que les paysans sont de plus en plus considérés comme les véritables propriétaires de leurs terres ?
Personnellement, mais tout le monde ne partage pas mon avis, je pense que les paysans ont toujours été propriétaires de leurs terres. Propriétaires au sens où, bien entendu, ils partagent cette propriété avec ceux qui ont la propriété éminente et qui leur demandent des redevances, des prestations.
Donc il faut distinguer la propriété éminente détenue par le seigneur et la propriété dite utile qui est détenue par le tenancier.
Tout à fait. Sauf que, qu'est-ce que c'est qu'être propriétaire ? Être propriétaire, c'est avoir le droit de transmettre ses biens à ses enfants, de les vendre, de les acheter, les hypothéquer, de les cultiver comme on l'entend. Et ça, on peut le faire depuis le XIIe siècle quasiment. Alors donc, ces paysans se sentent propriétaires. Ils sont véritablement propriétaires, même s'ils ne sont pas propriétaires totalement. Et c'est ça qu'ils supportent mal. Ils ne comprennent même plus pourquoi ils ont à payer des redevances à un personnage, le seigneur, qui ne leur apporte généralement pas énormément de contrepartie. Donc il y a cette idée, nous sommes déjà propriétaires. Et quand la Révolution va dire, voilà, eh bien on va supprimer la propriété féodale, mais il faut que vous rachetiez ces redevances pour en être libérés. Ben, ce qui se passe, c'est que personne ne les rachète. Et personne ne paye plus non plus. Ces paysans pensent qu'ils sont propriétaires et que c'est juste. On entérine simplement un état de fait.
C'est aussi lié au pouvoir seigneurial qui recule tout au long du XVIIIe siècle. Ces redevances, ils les payent de moins en moins en réalité.
Oui, on a bien. Ça dépend des régions. Il y a des régions où la seigneurie résiste bien, mais il y a beaucoup de régions où elle a commencé à baisser les bras. On a des témoignages assez ironiques. On a par exemple M. d'Alembert, qui est un des encyclopédistes, et il y a une lettre de la marquise qui écrit et dit. Mais quelle mouche a piqué, mot à mot, hein, quelle mouche a piqué monsieur d'Alembert de vouloir s'acheter une seigneurie? Ses paysans ne lui percent pas ses redevances, il se moque de lui, c'est le plus malheureux des hommes. Donc il y a cette volonté de ne plus reconnaître véritablement la propriété seigneuriale, mais on a besoin d'une sanction législative pour le faire. Et donc, quand la Révolution dit « vous rachetez », ils disent « non ». Et en 93, on va abolir sans indemnité, ce qui est quand même formidable.
Et là où au Moyen-Âge, le seigneur avait peut-être un droit par rapport à la transmission de cette terre, de plus en plus, finalement, les tenanciers transmettent librement leurs terres à leurs héritiers.
Ils la transmettent depuis longtemps librement, sauf qu'ils doivent payer des droits. Des droits généralement assez élevés, les lots et ventes, peu importe le nom. Mais quand on y réfléchit, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Quand on vend une propriété, quand on achète plutôt, c'est plutôt celui qui achète, on paye plus les lots et ventes, mais on paye des droits de transmission à l'État. C'est simplement un transfert.
Laurence Croque, qu'est-ce que vous posez comme regard sur cette idée de paysans qui seraient les véritables propriétaires de leurs terres et de certains paysans qui arriveraient à s'élever dans l'échelle sociale dès le XVIIIe siècle?
Alors, sur le terrain que je travaille, je vois peut-être pas tellement la première catégorie, j'en vois une partie de la deuxième catégorie, puisque une partie de ces familles paysannes qui sont assez aisées, elles ont de nombreux enfants, et elles arrivent à établir une grande partie de leurs enfants dans des belles fermes, mais il y en a une partie qu'elles ne peuvent pas caser, donc ces jeunes arrivent à Paris et cherchent à s'établir dans des métiers qui sont relativement valorisés, en particulier dans la marchandise, beaucoup plus que dans les milieux artisanaux. Ce qui fait que, moi, j'observe l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire des gens qui deviennent des notables à Paris. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a mobilité géographique qu'il y a ascension sociale. En fait, ils reproduisent à la ville la même position que celle de leurs parents à la campagne, puisque ces riches paysans, eh bien, ce sont eux aussi qui détiennent les fabriques paroissiales, qui sont les représentants du seigneur. Donc, à la ville, ils ont une position dominante équivalente à celle de leurs parents.
Mais cela signifie qu'ils vont pouvoir entrer dans des corporations dont on a beaucoup dit qu'elles étaient extrêmement fermées et qu'elles empêchaient justement toute possibilité d'ascension sociale.
Alors, l'historiographie de ces 20 dernières années a beaucoup retravaillé la question de la mobilité sociale et en particulier de la fermeture présumée des corporations. Il y a des corporations qui sont assez fermées, assez contrôlées, avec des numerus clausus, avec des clauses très contraignantes. Et puis, il y a des corporations comme celle sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, les marchands merciers, où du moment qu'on est capable de payer la taxe d'entrée, eh bien, on peut avoir 30 ans et venir d'une autre ville ou bien être passé par la voie normale de l'apprentissage. On rentre dans la corporation et après, on fait presque ce qu'on veut. On peut même acheter d'autres appartenances corporatives. C'est le cas de Réveillon, hein, qui, dans les années 1780, est propriétaire de 12 identité corporative, hein. Et avec ça, il arrive à fabriquer du papier peint comme il veut. Donc, le monde des corporations s'est considérablement assoupli.
Il s'est assoupli, Laurence Croque, et en même temps, l'accès au crédit demeure extrêmement compliqué et entrave les velléités d'ascension sociale au XVIIIe siècle.
Alors, en fait, Là, vous évoquez une espèce de plafond de verre qu'il y a pour ces jeunes issus ou de la ville ou de la campagne. S'ils n'ont pas par leur famille des gens qui sont capables de se porter caution pour l'achat des marchandises, pour la location de la boutique, eh bien, ils pourront toujours acheter la maîtrise, mais ils ne pourront pas s'établir comme marchands. Voilà, donc là, c'est vraiment un des éléments de blocage. Mais les fils des gros fermiers d'Île-de-France, ils ont ce qu'il faut comme caution.
Alors face à ce plafond de verre, il faut trouver d'autres stratégies pour s'élever dans la société. Et la plus rapide demeure sans doute le mariage.
Que voulez-vous aussi ? Je ne suis pas un imbécile, moi. Un homme à me marier en dupe. En vérité, il faut l'avouer, si l'on y prenait garde, un sot marché serait bientôt conclu. L'un, c'est sa fille qu'il veut marier adroitement. Elle est bien mise, bien brillante, on me la prône, on me la fait toute d'or. Je me montre amoureux, rempli d'une excessive tendresse. Et quand nous en venons au fait, il n'y a plus d'argent. Paraissent de vieux contrats réduits à moitié que l'on veut me passer plus cher que sur la place même. C'est une dot payable en des termes éloignés, c'est-à-dire une espérance, et par conséquent un germe de procès contre un beau-père. C'est un trousseau estimé à un prix au-dessus de ce que je le paierais chez le plus dur juif à 10 ans de crédit. Aussi mon amour expire involontairement. L'amour ne se nourrit point de brouillard. Il faut en ménage de la réalité.
L'amour ne se nourrit point de brouillard. Voilà ce que dit Monsieur Jules Fort dans La Brouette du Vinaigrier, une pièce de Louis-Sébastien Mercier jouée pour la première fois en 1774. Le mariage est une stratégie, mais c'est aussi un pari risqué, Laurence Croc.
Oui, c'est une stratégie essentiellement pour les jeunes femmes qui, dans cette société, peuvent se marier au-dessus d'elles, hein, c'est-à-dire épouser quelqu'un d'un rang social supérieur. Mais c'est vrai que les négociations avec les familles de ces jeunes femmes sont parfois difficiles pour les candidats au mariage, parce que elles ont tendance, si elles ont un beau capital social, à proposer dans la corbeille de la dot eh bien, des vieilles créances qui risquent peut-être honorées. Le texte évoque aussi la surestimation d'un certain nombre de biens. Donc la négociation des mariages pour les jeunes hommes avec un capital social fragile, éventuellement originaire de province, est difficile au XVIIIe siècle, ce qui explique sans doute une extension du célibat et puis le repli de ces profils d'hommes un peu fragiles socialement vers des femmes issues de leur milieu social, voire de leur ville, parce qu'ils ne font pas le poids hein, face aux familles parisiennes.
D'où la nécessité d'accorder un soin tout particulier au contrat de mariage, en effet, Gérard Bauer.
Oui, absolument. Le contrat de mariage, c'est un moment très fort, surtout pour les catégories un peu supérieures de ces classes moyennes. La bourgeoisie y prête énormément attention, mais aussi, bien entendu, les classes supérieures de la paysannerie. C'est une affaire extrêmement grave. Sans dot, on est très mal parti pour avoir un beau parti lorsqu'on est une jeune fille, même de bonne famille. C'est assez compliqué.
Et on peut négocier éventuellement le retour de la dot s'il n'y a pas de descendant ?
Alors là, les coutumes varient. Et effectivement, normalement, la dot reste propriété de la femme s'il n'y a pas de descendant. Effectivement, ça, c'est énorme. La plupart des coutumes prévoient cela, oui.
Et alors, vous disiez qu'il y avait une extension du célibat, Laurence Croc, notamment parmi les receveurs de rente, qui est un métier qui s'approche du métier de notaire.
Alors, en fait, dans la société parisienne, il y a les professions qui sont reconnues, qui sont établies, les offices, et les professions qui sont intégrées dans des corporations. Et puis, il y a une prolifération de métiers qu'on appelle les libres, par exemple celui des receveurs de rente. Et donc, ce sont des métiers, comme ils n'ont pas de statut juridique, ils n'ont pas de vraie reconnaissance sociale. Et donc, pour se marier, eh bien, ils ont un véritable handicap, même s'ils ont un capital économique, ils ont un très faible capital social parce qu'on ne peut pas trop les situer dans la société. C'est pour ça que, ou bien ils restent célibataires, ou bien ils font des mariages un peu en dessous, voire totalement atypiques.
Alors qu'à l'inverse, les marchands merciers font partie des six corps, ce qui leur permet d'accéder éventuellement à des postes politiques.
Tout à fait. Alors, les marchands merciers qui sont les plus aisés ou ceux qui se sont le plus enrichis, en effet, ont vocation, on va dire, à accéder aux charges de marguillier des paroisses, aux charges de l'échevinage, hein, donc à la municipalité ou à la direction du consulat. Hein. Donc, mais tous les marchands merciers ne peuvent pas. En revanche, ce qu'on remarque, c'est que ces postes politiques peuvent être accessibles aussi bien à des héritiers. Oui, évidemment, ils y arriveront à 40 ans, qu'à des hommes nouveaux qui arriveront à la même fonction, mais à 60 ans. Tout est une question de temps, Si on n'est pas, si on ne dispose pas par sa naissance du capital social et économique nécessaire pour devenir un notable, on peut l'acquérir. Voilà. Après, la différence, c'est l'âge.
Et donc, on a, si on garde nos deux exemples, le receveur de rente d'une part, le marchand mercier de l'autre, on a une différence de prise de risque, d'approche en termes de stratégie. Les receveurs de rente préfèrent ne pas prendre de risque à la fois sur le plan du mariage, mais aussi prendre peut-être moins de risques économiques.
Ce que je pense, c'est que l'espace des possibles n'est pas du tout le même selon la position sociale que l'on a. C'est-à-dire que deux personnes, un receveur de rente et un marchand mercier qui a 10 000 livres, il ne va pas du tout pouvoir négocier un mariage dans les mêmes conditions. Parce que, en fait, l'argent dont on est propriétaire, c'est une valeur secondaire dans cette société. Ce qui est primordial, c'est votre identité sociale. Vous êtes receveur de rente, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Alors que marchand mercier, tout de suite, ça vous positionne. Même si vous avez un capital économique assez faible. Donc voilà. Il faut bien se dire que l'argent, ce n'est qu'un critère secondaire de négociation et de classement.
Et malgré cela, ça peut être risqué également pour les marchands merciers. S'ils font un mauvais mariage, il y a un risque de déclassement qui existe.
Oui, alors certains marchands merciers font le pari choisissent de se marier au-dessus d'eux, avec une fille de la bonne bourgeoisie parisienne. Le problème, c'est que si elle décède sans un enfant, il va falloir qu'ils restituent la dot à la famille d'origine. Et alors là, ils mettent la clé sous la porte, puisqu'en fait, le commerce, tous les commerces commencent à crédit. Et en fait, la dot représente le crédit qui a été donné au mercier. Donc, si madame meurt sans enfant, ils rendent la dot. Et puis, ils n'ont plus qu'à devenir salariés dans une administration ou une école.
En effet, si l'ascension sociale est possible, la chute, le déclassement l'est aussi, Gérard Béor.
Oui, alors, si je reviens sur la paysannerie, et notamment sur ses couches les plus aisées, notamment les laboureurs, le risque est quand même relativement réduit. Les bergères qui épousent des princes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça, c'est pour la littérature.
Détruisez un mythe.
Les filles de laboureurs épousent généralement des enfants, des fils de grands fermiers. Il y a pas de, il y a une très forte endogamie. Hein. Et toujours avec le même système, étant donné que nous sommes, par exemple, je prends la région parisienne au sens large, hein, comme nous sommes dans un régime égalitaire, chacun reçoit normalement la même part d'héritage. Sauf que l'homme va recevoir la ferme et les femmes vont recevoir la dot. Et cette dot, généralement en argent ou en bétail, va permettre d'équiper la ferme. Donc il y a une complémentarité entre les deux, et donc sans cette complémentarité, le mariage risque de ne pas se faire. Il faut bien être conscient qu'il y a forcément une espèce d'équivalence entre ce que va apporter la femme et l'homme pour que la ferme puisse fonctionner.
Donc l'ascension par le mariage reste l'exception finalement.
Oui, ces castes de fermiers sont extrêmement fermées. Y rentrer, c'est possible, mais c'est vraiment très très difficile. Si on prend les catégories sociales un peu inférieures, c'est-à-dire le groupe des vignerons, des maraîchers, toute cette catégorie sociale intermédiaire que je mettrais aussi dans la classe moyenne et qui est probablement la partie la plus importante en nombre de ces classes moyennes paysannes. Pour eux, c'est différent. Ils vont s'établir, chacun apporte un peu d'argent, la femme va apporter un peu de son héritage ou d'une promesse d'héritage. Et donc, on va s'installer ainsi avec des apports plus ou moins équivalents. Alors, il peut y avoir des déséquilibres, mais en général, il n'y a pas trop de déséquilibre dans ce que chacun apporte. Cette société n'est pas fermée, mais quand même, les passerelles sont assez étroites. On peut monter, on peut descendre, mais un mariage, c'est une affaire trop sérieuse pour qu'on laisse ça au hasard.
Et en tout cas, ces stratégies d'ascension sociale s'inscrivent dans un contexte économique bien particulier, celui d'un enrichissement global au XVIIIe siècle. On en parle dans un instant.
Si la noblesse, mes chers amis, ont pour nous si grande rudesse, tant de mépris, laissons-les tous en faire à croire, prendre l'état. En attendant, nous allons boire au tiers état. Devant la divine justice, pas plus que nous, à quoi leur servent l'artifice et le courroux? Auraient-ils perdu la mémoire que leur éclat provient de même que leur gloire du tiers état?
qui nous traitez de racailles si poliment, comme nous vous paierez la taille très noblement. Vive le sauveur de la France, Necker, viva! Tout ce héros tient-il naissance du tiers état? De Henri, notre bon monarque, a le grand cœur. Il veut, il fait, il nous le marque, notre bonheur. Aimons-le toujours avec zèle, servons l'État, qu'à lui soit toujours fidèle le tiers État.
C'était Chanson sur le tiers état par Louis Martini sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Gérard Béor et Laurence Croc sont toujours avec nous pour parler de l'émergence d'une classe moyenne sous l'Ancien Régime. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce qu'on observe au XVIIIe siècle, Gérard Béor, c'est une augmentation générale du niveau de vie. C'est rarement l'image que l'on a en tête de la situation économique de l'avant-révolution.
C'est un peu compliqué parce que effectivement, lorsqu'on mesure le niveau de vie, je suis en train de le faire sur la région, sur l'Abri, et donc on a des instruments pour le faire, je ne vais pas détailler ici. On voit qu'il y a une augmentation du niveau de vie extrêmement rapide, disons à partir de 1715. La fin du règne de Louis XIV est un grand soulagement, et sa mort une grande joie, parce que le niveau de vie va monter très très vite au XVIIIe siècle. Mais le niveau de vie de qui? Alors, probablement toutes ces catégories sociales un peu intermédiaires dont j'ai parlé, vignerons par exemple, maraîchers, on a le cas des pépiniéristes, enfin je peux détailler plus avant s'il faut, qui vont effectivement accumuler de l'argent en profitant du marché urbain. Et ces gens vont à un niveau de vie qui va s'accroître. J'ai d'autres indices indirects, par exemple la consommation de café, la consommation de tabac, de chocolat c'est moins net, mais de toutes ces choses qui sont nouvelles augmentent à une vitesse vertigineuse.
Cette augmentation du niveau de vie, on la constate grâce aux inventaires après décès, c'est cela ?
Absolument. Absolument. C'est ce qui permet effectivement d'avoir une idée de ce que les gens possèdent lorsqu'ils meurent et en quoi ça a évolué au cours du temps.
Que les objets, pardon, se sont multipliés.
Tout à fait.
Quel type d'objets, par exemple ?
Oh ben, l'armoire a remplacé le coffre. On voit on boit dans la vaisselle en faïence ou même en porcelaine, la verrerie apparaît, on voit des fourchettes qui commencent à se multiplier, des cuillères qui se multiplient, du linge surtout, qui est beaucoup plus abondant, etc. etc. Tout augmente. Par contre, on ne sait pas trop bien ce qui se passe au niveau des catégories inférieures, même si on a des inventaires de la catégorie inférieure, eux aussi semblent profiter un peu de cet enrichissement, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi, puisque les salaires sont plutôt stagnants et même descendants en valeur réelle. Donc c'est un peu encore mystérieux, qu'est-ce qui se passe sur les couches inférieures, mais ce n'est pas notre objet. Il est clair que pour les couches moyennes, il y a nettement un enrichissement. Donc, et la révolution va leur donner un formidable coup va vraiment booster.
Un accélérateur. Mais ouais. Alors, les groupes sociaux qui vont bénéficier le plus de cette amélioration, donc vous le disiez, ce sont les bourgeois, les marchands, et c'est le cas à la ville comme à la campagne, autour de cette région de Meaux que vous avez étudiée.
Oui, les marchands, notamment de Meaux, enfin, c'est pas des grands marchands, les marchands de Meaux ne sont pas les marchands de Paris. Hein. Les marchands de Meaux, effectivement, profitent beaucoup. Enfin, en tête, ceux qui ont le plus profité de ça, ce sont les chanoines, mais enfin, je les mets de côté. Mais effectivement, les marchands sont ceux qui sont les grands profiteurs de cette augmentation du niveau de vie, les laboureurs également, et puis même, mais avec un peu de retard forcément, vignerons, petits laboureurs, etc.
Et alors comment expliquer en effet cette augmentation du niveau de vie, cette croissance économique? Est-ce qu'il faut l'appeler comme cela, Laurence Croc?
J'avoue que pour le milieu parisien, de la bourgeoisie parisienne, je suis pas sûre que la notion de croissance économique soit forcément l'élément qu'on puisse vraiment maîtriser avec les inventaires après décès. En revanche, ce qu'on voit vraiment, c'est la diversification et l'augmentation de la consommation et la démocratisation d'un certain nombre de consommations. Gérard Béor évoquait les vêtements, Daniel Roche a étudié les inventaires après décès, même des milieux populaires. On voit la couleur apparaître dans les vêtements du peuple qui autrefois n'étaient que gris, marron. Donc, et on voit cette multiplication. Les bourgeoisies parisiennes sont peut-être connaissent en partie, en effet, un processus d'enrichissement, mais il faut penser aussi qu'il y a aussi d'autres dynamiques, hein, qu'il y a des dynamiques d'appauvrissement, de déclassement qui sont liées aux faillites, aussi bien dans les milieux des marchands que dans les milieux des avocats, des procureurs. Et c'est peut-être ce qui fait, ce qui offre la possibilité à un certain nombre de gens de trouver aussi leur place dans la ville, puisque comme il y a des processus d'ascension et de déclassement, il y a des places qui se libèrent. Et pour les parvenus ou les gens qui ont de l'ambition, voilà.
Gérard Béant, vous parleriez-vous de croissance économique au XVIIIe siècle ?
Oui, probablement, mais surtout d'intensification des échanges, et notamment d'augmentation de la consommation urbaine. Parce que tous ces vignerons, par exemple, c'est quand même une catégorie sociale extrêmement nombreuse. On a peine imaginé qu'aujourd'hui, ces gens sont extrêmement nombreux. Et même parfois, c'est presque la totalité de la paroisse. Et eux, ils arrivent à vendre le vin qu'ils ne consomment pas eux-mêmes, d'ailleurs. Ils achètent leur pain et ils vendent leur vin. Et le marché parisien, par exemple, est une formidable aubaine. Il faut quand même savoir qu'au XVIIIe siècle, chaque Parisien consomme 1 demi-litre de vin par jour, bébé compris. Hein. Donc, il y a une très grosse consommation de vin. De même pour la viande. Les masses de bestiaux qui arrivent à Paris, mais c'est prodigieux. On passe ça triple pratiquement de la bout à l'autre du siècle. On mange de plus en plus de bœuf qui arrive de Normandie, enfin bon, peu importe. Et donc il y a toute une catégorie qui va profiter de cette ouverture des échanges. Bon, pourquoi tout ça ? La conjoncture, sans doute, le climat économique est meilleur. Mais il y a quand même une différence. On n'a plus de grandes famines. Et puis, on n'a plus Condé, Turenne et les autres qui viennent dévaster vos champs tous les 4 matins et qui détruisent tous les villages, qui violent toutes les femmes, qui tuent tout le monde. On n'a plus ça. C'est une période beaucoup plus calme. C'est plus facile de s'enrichir, entre guillemets, de devenir plus aisé quand il n'y a pas d'accident que quand on vient périodiquement tout vous saccager.
Oui, alors le manque d'accident peut-être effectivement doit être pris en considération, mais est-ce qu'il faut y voir tout de même les prémices de la révolution industrielle ? Est-ce qui expliquerait cet enrichissement de nombreuses catégories, même si on a bien compris que tout le monde ne profitait pas de la même façon de cette hausse du niveau de vie, Gérard Béant ?
Prémisse de la révolution industrielle, c'était de beaucoup dire, parce que cette révolution industrielle va se construire sur d'autres bases. Hein. Non, plutôt une intensification des échanges, une ouverture plus large au marché, une circulation plus importante des produits et des récoltes meilleures. Plus de grandes famines. Et il y a quand même eu des famines terribles au XVIIe siècle. Il faut quand même savoir que c'est 194, c'est 1 500 000 morts. C'est la guerre de 14. Et la famine de 1709, c'est 600 000 morts. Et ceux qui survivent, ils sont pas beaux à voir. Hein. Donc on n'a plus ça. Et ça aide quand même beaucoup.
Donc c'est avant tout le fait que c'est une période plus calme dont on parle, Laurence Croque, de meilleures récoltes, qui explique cet essor du nombre d'objets, ce début d'un certain confort, d'un certain luxe dans certaines maisons.
Alors je pense qu'en effet, on n'est pas encore dans la révolution industrielle, mais il y a quand même des éléments d'augmentation de la production. Rien qu'à Paris, on voit la multiplication des manufactures de faïence, de porcelaine. On consomme aussi, par exemple, l'horlogerie se développe. Alors, ce que Marie-Agnès de Couit a montré, par exemple, c'est que les horlogeries parisiennes ne fabriquent plus les horloges, hein, ou les montres, mais qu'ils assemblent des pièces qui sont fabriquées en Suisse. Hein. Mais, comme ça, ça permet à une grande partie de la population d'avoir accès à des consommations qui autrefois étaient réservées aux aristocrates. On a aussi l'invention de produits de simili, par exemple le strass. Hein, l'imitation des cristaux et des diamants, eh bien c'est quelque chose qui est réalisé au XVIIIe siècle par un orfèvre d'origine allemande, mais qui est devenu orfèvre parisien. Voilà, donc on a le développement d'une consommation de masse par la diversification et la diminution aussi de la qualité d'un certain nombre de produits, mais qui imitent les produits de luxe.
Vous parlez d'horlogerie, Laurence Croque. Il y a un horloger célèbre devenu écrivain, c'est Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, l'auteur du Mariage de Figaro et du Barbier de Séville. Écoutons-le à travers la voix de Fabrice Lucchini lors d'un procès qui l'oppose au comte de la Blache.
Voici, messieurs, l'unique objet de cette audience. Un vulgaire morceau de papier signé avant sa mort par le banquier Duvernay et qui se polie honteusement. Son héritier légitime, le comte de la Blache, ici présent, au profit du sieur Caron, que nous avons à juger aujourd'hui. Or, ni monsieur de la Blache, ni les experts nommés par la cour, ne reconnaissent l'authenticité de la signature de ce texte. Alors qui devons-nous croire? Un homme respecté de tous et qui depuis toujours honore sa position? Ou bien un amuseur public dont le métier est l'illusion, dont le nom même est un mensonge? Cet homme est un faussaire et un imposteur dont nous devons purger la société.
N'étant pas un maître illustre du barreau, je me contenterai de la pure vérité.
Elle vient, mes amis.
Cette enceinte n'est pas la Comédie française.
Eh ben, c'est bien malheureux parce que chez les comédiens, on voit percer souvent une sincérité inconnue dans ces lieux.
Au fait, monsieur Caron.
De bon marché, cher comte. Ma particule est là, je l'ai payée fort cher et elle m'appartient.
Un extrait du film Beaumarchais, l'insolent d'Edouard Molinaro. Beaumarchais, c'est l'incarnation de cette bourgeoisie qui bouscule l'ordre établi, Laurence Croc.
D'une certaine façon, oui, puisque il a un parcours d'ascension sociale tout à fait exceptionnel, qui doit sans doute autant à son talent de plume qu'à sa capacité à s'engager dans un certain nombre d'activités comme la fourniture d'armes à l'armée française pendant la guerre d'Amérique. Après, vous savez, les historiens américains ont bien remarqué que notre lecture de la position de Beaumarchais dans la société d'Ancien Régime n'est peut-être pas tout à fait juste.
Dans quel sens?
Dans quel sens? C'est-à-dire, pour nous, c'est un peu l'incarnation du bourgeois conquérant qui est capable de tenir tête aux nobles. Et les collègues américains ont remarqué qu'en fait, à l'époque, il était perçu comme un des membres qui se rattachait plutôt à l'aristocratie, développant des valeurs morales tout à fait contestables. Hein. Et en fait, je pense que quand on regarde la position qu'il a adoptée vis-à-vis de la Révolution, on se rend bien compte que cette lecture des collègues anglo-saxons est sans doute plus juste que cette idée d'un Beaumarchais libéral, hein, puisqu'il est très en retrait vis-à-vis de la Révolution, qui semble subir plutôt qu'accompagner de ses voeux.
Mais cette division entre chercheurs français et chercheurs américains que vous soulignez, Laurence Croc, elle est intéressante parce qu'elle nous dit bien à quel point il y a une difficulté à situer véritablement le bourgeois. Est-ce que c'est un petit bourgeois? Est-ce que c'est un grand bourgeois? Est-ce qu'il fait partie d'une sous-aristocratie? On voit que dans tout ce 18e siècle, il y a une volonté, en tout cas, de ces figures de bourgeois de se rapprocher de l'aristocratie sans toujours, toutefois, bien y arriver.
C'est vrai que cette ascension sociale de la bourgeoisie vers la noblesse, c'est une dynamique qui est importante, même si elle se heurte, elle aussi, à une forme de plafond de verre, c'est-à-dire que on peut acquérir un office anoblissant, mais on ne sera pas pour autant reconnu comme noble par les nobles. On sera toujours qu'un bourgeois, étant donné que dans cette société, on est défini avant tout par sa naissance. C'est non pas parce qu'on est, parce qu'on fait, mais avant tout, que faisait votre père, voire que faisait votre grand-père. Donc ça, c'est quelque chose qui enferme les identités. Donc ce que je pense, c'est que dans toutes les histoires nationales, il y a des espèces de héros. Et Beaumarchais doit faire partie un peu de nos héros nationaux. Et c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur parce que sans doute que la lecture est moins idéologique.
La fluidité sociale est tout de même présente, Gérard Béor, au sein de cette société de l'Ancien Régime, même si elle demeure très hiérarchisée.
Oui, effectivement. En fait, il faut quand même bien remettre les choses en place. Le rêve de tous les bourgeois, c'est de devenir noble, il faut être clair. Et le problème, c'est que l'anoblissement n'est pas une procédure facile. En général, ça coûte très cher. Et donc, la grande frustration, c'est comment acquérir les moyens de devenir noble, c'est-à-dire acheter un titre de noblesse, mais surtout passer par l'office. Or, un office, c'est très cher, très très cher. Ce sont parfois des dizaines de milliers de livres. Et effectivement, il y a tout cet effort à la fois. On a envie et on déteste les nobles parce qu'on n'y est pas, mais en même temps, on voudrait être dedans. Donc, il y a tout ce problème un peu ambigu. On est toujours un peu entre les deux. Je t'aime, moi non plus. Et donc, cette fluidité, elle passe aussi par le mariage, par les filles. On peut faire en sorte que sa fille épouse un noble des argentés, par exemple. Ça, c'est une autre solution. Ce que les nobles appellent « fumer ses terres ». C'est-à-dire obtenir que la fille accède à la noblesse, mais par le mariage, de manière un peu incidente. Et grimper dans l'échelle sociale, c'est quand même un grand problème, parce qu'effectivement, l'office est un blocage, l'achat du titre de noblesse est un blocage, et donc ça crée beaucoup de frustration, donc ça explique un peu la hargne de la bourgeoisie à l'égard de la noblesse.
Et en même temps, le groupe de la bourgeoisie est un groupe extrêmement hétérogène, Laurence Croque, même si Marivaux écrit en 1717 « Le bourgeois est noble par imitation et peuple par disposition », mais en réalité, ce n'est pas aussi simple, il y a énormément de bourgeois différents.
Alors, c'est vrai que la bourgeoisie, on peut la classer de différentes façons. On peut la classer en fonction de ses niveaux de revenus, sachant que pour moi, il y a vraiment deux consommations distinctives de la bourgeoisie en haut et en bas. Entre la bourgeoisie et le peuple, il y a la détention d'une cave. Les gens du peuple, ils ont une pièce, deux pièces, ils n'ont jamais de cave. Quand on est bourgeois, en général, on a une cave où on stocke le vin qu'on a acheté en gros. On ne va pas acheter du vin au cabaret d'en bas, où il est trafiqué. Et puis, la frontière entre bourgeoisie et noblesse, moi je la vois avec la détention d'un équipage. Parce que avoir un carrosse, avoir des chevaux, ça suppose avoir des palefreniers, voilà, et ça suppose d'avoir aussi un local pour loger tout ça. Et entre les deux, et ben voilà, c'est vrai qu'il y a ce groupe très important qu'on peut classer en fonction de son niveau de fortune. Bon, on va dire que pour simplifier, hein, au-dessus de 1000 livres, on est dans la toute petite bourgeoisie, et puis on peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de livres. Mais il y a une autre façon de classer la bourgeoisie, bien c'est un peu à la façon que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a aussi le capital social dont on est détenteur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui appartiennent au SICOR, hein, qui sont marchands, merciers, drapiers, qui ont 2000 ou 3000 livres. C'est pas énorme, hein, c'est vraiment tout petit, mais comme ils appartiennent à une catégorie sociale, une catégorie corporative très estimée, eh bien, ils ont beaucoup de capital social. Et c'est important parce que on a des histoires de femmes engagées dans la vie politique qui appartiennent à ces catégories de milieux très estimés socialement, mais avec peu de capital économique. Et je pense qu'on ne pourrait pas retrouver l'équivalent dans d'autres milieux.
Et ces structures sociales vont être bouleversées par la Révolution française et en particulier la nuit du 4 août 1789. L'Assemblée constituante, qui est instaurée à la suite des États généraux, vote alors l'abolition des privilèges.
Ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ses droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance.
Notre collègue Breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis.
Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers.
C'était un extrait de La Révolution française, un film de Robert Enrico et Richard Efron, et qui pose un certain nombre de questions, notamment celle-ci, Gérard Béard. Qu'est-ce que l'abolition des privilèges et la fin du système des taxes va changer? Est-ce qu'elle va d'abord bénéficier aux paysans?
Alors, on a bien entendu dans cet extrait qui est extrêmement clair, il y a deux choses. Il y a d'abord l'accès à tous les emplois. On va supprimer les offices. Donc, n'importe qui peut théoriquement postuler à n'importe quel emploi et accéder donc à ces fonctions qui sont quand même assez enviées, mais pas très nombreuses. Il n'y a pas encore une grande bureaucratie à cette époque-là, mais elle va augmenter. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est la suppression des droits seigneuriaux. Nous sommes le 4 août. Vous notez que c'est le vicomte de Noailles, le comte de Beauharnais et puis Luc d'Aiguillon qui ont proposé ça. C'est normal, ils n'avaient pas droit seigneuriaux, donc ils pouvaient parfaitement être d'accord sur ce point. Mais ça va être approuvé avec enthousiasme. Alors pourquoi? C'est pas un cadeau gratuit, hein. C'est parce qu'il vient de se produire la grande peur. Et donc, les campagnes sont en émoi, on brûle des terriers, on attaque des châteaux, on a même exagéré un peu ce qui s'est passé, mais il y a un grand mouvement en France, il faut faire quelque chose. Et là, l'Assemblée s'est divisée en deux. Ceux qui disent faut réprimer, on envoie la troupe, on en prend quelques-uns, ça va calmer. C'est généralement la bourgeoisie qui dit ça. Et la noblesse qui dit non, ils sont miséreux, il faut faire quelque chose, et on va abolir ces droits seigneuriaux. Ça, c'était le 4 août. Et puis il y a le matin, vous savez, comme quand on a beaucoup bu, le lendemain on n'est pas très frais, on se dit oh là, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et donc le lendemain c'est les décrets. Et dans les décrets on dit ah non, on supprime pas, il faut racheter. Et on va fixer des conditions de rachat. Seulement les paysans, ils n'ont rien retenu de tout ça. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est le 4, le 5, ils ne connaissent pas. On a supprimé. Et donc, ils ne vont plus payer tout de suite. Ils arrêtent. Ils ne rachèteront pas. Et donc, ça explique leur attachement, l'attachement de cette paysannerie à la Révolution. On supprime d'un trait de plume tous ces droits seigneuriaux. On va même supprimer bientôt la dîme. Donc, c'est formidable.
Mais en réalité, est-ce que ces terres récupérées à l'aristocratie, au clergé, elles ne vont pas tomber dans les mains davantage des riches paysans, notamment en Ile-de-France, Gérard Béor, plus que des petits paysans?
Là, on parlait de droits seigneuriaux, hein, c'est-à-dire des redevances que les gens payaient en contrepartie de l'usage, la propriété, on peut en discuter, qu'ils avaient sur les terres. L'autre aspect, c'est la vente des biens nationaux. Ça va déclencher un peu plus tard pour des raisons fiscales, essentiellement. Et donc, on va mettre en vente les biens nationaux, c'est-à-dire les biens de l'Église d'abord, puis plus tard ceux des émigrés, etc. Je passe. Et là, effectivement, ces biens du clergé vont être mis en vente aux enchères, par gros lot. Donc les paysans, pratiquement, les petits paysans vont avoir du mal à accéder. C'est pas eux qui vont en profiter. Ils vont avoir des miettes quand même. Et ils vont être très contents de ces miettes, parce qu'une miette ajoutée à une autre miette, eh ben ça fait quand même plus qu'avant. Et donc on a la satisfaction de ceux qui ont réussi, ils sont pas si nombreux, à profiter de ça. Ceux qui vont gagner, c'est la bourgeoisie, c'est la noblesse, qui n'a pas scrupule à acheter les biens du clergé au départ avant de se faire confisquer, et même les laboureurs. Mais les laboureurs, ça va être un coup de poker. Acheter ces biens, c'est très cher. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'avec la baisse de l'assignat, ils ne paieront quasiment pas. Et eux aussi, ils vont être très contents d'avoir ces biens gratis.
Laurence Croix, qu'est-ce que cette révolution française va entraîner en termes de bouleversement des structures sociales? Dans quelle mesure est-ce qu'elle profite d'abord, peut-être et avant tout, aux bourgeois?
Alors, ce que je pense, c'est que la Révolution française va élargir le groupe, je dirais, politique de la bourgeoisie. Avant la Révolution, tant qu'on n'était pas un petit patron, que ce soit un marchand, un procureur à la tête d'un cabinet ou un notaire, on ne pouvait pas avoir accès aux structures politiques. Donc, tout le milieu des employés, des ministères et des administrations qui est en pleine expansion au XVIIIe siècle avec le développement de la bureaucratie, toutes ces postes lui étaient fermées. Or, quand on regarde les listes de citoyens, des électeurs sous l'Empire et puis au début de la monarchie, enfin après la Restauration, on voit des employés, des commis d'administration. Hein. Donc en fait, la Révolution participe à un élargissement du groupe électoral et l'établissement aussi d'un sens pour accéder au droit d'élire contribue aussi à cet élargissement.
Et ça va être la mise en œuvre de ce que va développer Tocqueville, mais ce que développaient déjà les philosophes de l'Antiquité, cette idée par exemple exprimée en l'occurrence par Rousseau quand il disait que la société la plus apte à se donner une constitution républicaine serait une société où chacun possède quelque chose mais où personne ne possède trop. Alors je vous propose d'écouter l'expression de cette idée dans un texte d'Aristote extrait de la Politique.
Il est vrai que la classe moyenne est la base la plus sûre d'une bonne organisation sociale. Il est vrai qu'une cité aura nécessairement un bon gouvernement si cette classe a la prépondérance sur les deux autres réunies, ou du moins sur chacune d'entre elles en particulier. C'est elle qui, se rangeant d'un côté, fera pencher l'équilibre et empêchera l'un ou l'autre extrême de dominer. Classe moyenne, ayant une douce aisance, voilà les gouvernants qui assureront le bonheur de l'État. Si le gouvernement est entre les mains de ceux qui ont trop ou trop peu, il sera ou une fougueuse démagogie, ou bien une oligarchie despotique. Or, quel que soit le parti dominant, l'emportement de la démocratie ou la morgue oligarchique conduisent droit à la tyrannie. La classe moyenne est bien moins exposée à tous ces excès. C'est cette classe moyenne qui assure aux démocraties un aplomb et une durée que n'a pas le régime oligarchique.
La classe moyenne comme pilier de la démocratie, une idée qui remonte à l'Antiquité, à Gérard Béor, et qui sera développée au XIXe siècle par Tocqueville.
Oui, mais elle est déjà très présente pendant la Révolution. C'est l'idéal de tous ces petits boutiquiers, artisans parisiens qui vont faire la Révolution. Pour eux, la société idéale, c'est une société de petits propriétaires qui ont chacun leur boutique, leur atelier. Donc on écarte la possibilité des grandes entreprises et de la bourgeoisie et on écarte le prolétariat. Une société de petits propriétaires paysans ou artisans qui vivent de leur travail. Et ça, c'est la racine du jacobinisme, en fait. Et qui va être, c'est là que la révolution va puiser l'aile marchande de la révolution, surtout au moment de la terreur. C'est-à-dire, essayer d'obtenir cette société idéale. Ça va se retrouver dans le radicalisme bien plus tard, hein, et toujours avec le même idéal des petits propriétaires qui peuvent vivre dans l'aisance sans être très riches et qui bénéficient de l'ordre, de la stabilité que le régime peut leur procurer.
Il y a l'idée peut-être que les inégalités sont plus supportables si la mobilité sociale est réelle, Laurence Crock ?
Je pense que oui, tout à fait. Mais ce que je pense aussi, c'est que les classes moyennes, elles s'accommodent aussi de régimes politiques différents, parce que je pense qu'on peut pas quand même mettre entre parenthèses le régime napoléonien et l'Empire. Et donc, en fait, cette classe moyenne, elle est partagée entre des courants, je dirais, politico-religieux qui sont assez différents. Et donc, à certains moments, c'est le courant plus démocratique qui l'emporte, hein, en particulier au début de la Révolution, mais progressivement, il y a un courant aussi qui est favorable à un pouvoir fort, incarné ou par le roi ou par une autre figure, qui sera quand même dominant à la fin de toute fin du XVIIIe siècle et au début du 19e.
Mais c'est en tout cas cette égalité des chances vantée par Tocqueville lorsqu'il observe la société américaine qui est aujourd'hui remise en cause, Gérard Béor, avec cette idée que pour les classes moyennes aujourd'hui, l'ascenseur social serait désormais bloqué.
Les classes moyennes se sentent toujours un petit peu marginalisées, elles ont toujours peur d'être absorbées, aspirées par les classes inférieures. Et effectivement, depuis quelques décennies, on voit un élargissement des inégalités. Un groupe social qui a profité beaucoup de la redistribution des richesses et une classe sociale pauvre qui n'arrive pas à s'extraire de cette pauvreté. Et le problème, le dilemme de cette classe sociale, classe moyenne intermédiaire, c'est ne pas tomber dans cette pauvreté et l'impression que, de manière relative, elle a perdu du terrain. Et que donc elle est en voie de prolétarisation.
En quoi l'histoire de cette classe moyenne qu'on a relatée tout au long de cette émission nous éclaire aujourd'hui, Laurence Crock, pour comprendre les revendications actuelles, que ce soit les revendications des Gilets jaunes, les mouvements contre la réforme des retraites?
Les classes moyennes de l'Ancien Régime, elles aspirent plutôt donc à l'ascension sociale. Et je pense que quand il y a des cas de déclassement, ce sont des parcours extrêmement douloureux. C'est intéressant parce que je pense que ça nous, dans la société actuelle, la hantise du déclassement et de la paupérisation sont des faits majeurs et qui sont interprétés aussi avec des formes de, parce qu'elles sont associées à des formes de désengagement de l'État, aussi bien dans les institutions de soins, dans les institutions éducatives, sous toutes ces formes. Et donc, voilà, je pense que dans les deux cas, il y a ce problème-là.
Eh bien, on en parlera justement demain, la peur du déclassement et notamment le spectre du chômage pour les classes moyennes. Ce sera l'objet de notre discussion. Un grand merci à tous les deux. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Et d'abord, cette baisse de 30% des cours du pétrole en Asie, un crack après l'échec des pays producteurs à s'entendre sur une limitation de la production, à l'inquiétude d'une demande en baisse, succède désormais l'angoisse d'une guerre des prix.
Et oui, ça va saigner, hein, résume un analyste assez laconique. Après cette dégringolade des cours et des valeurs pétrolières qui se poursuit en ce moment, double crise en fait, en plein coronavirus, les marchés vacillaient déjà en raison des incertitudes, notamment quant à la demande de la Chine, première consommatrice mondiale. Désormais, c'est clairement la guerre des prix qui est en vue. En effet, tout s'est enchaîné assez rapidement. Après le refus vendredi de la Russie de limiter la production, se disant satisfaite des cours actuels, c'était Riyad qui répliquait en abaissant son prix de vente du baril à 6 $, du jamais vu, puis déclarait hier prévoir d'augmenter sa production de jusqu'à 10 millions de barils par jour d'ici avril. Autrement dit, deux choses. chose. L'OPEP Plus est morte, cet accord qui permettait de limiter la production, et les hostilités sont lancées. Riyad est donc reparti dans une stratégie de part du marché. La guerre est ouverte, dit Francis Perrin, chercheur associé au Policy Center for the New South de Rabat et directeur de recherche à l'IRIS.
Depuis le début de l'année, si on prend le prix du pétrole Brent produit en mer du Nord, on est sur une baisse de près de 50% sur un délai non pas de plusieurs mois, mais de plusieurs semaines seulement. Clairement, l'Arabie Saoudite a très peu apprécié, et c'est un euphémisme diplomatique, le niet russe à la proposition de l'OPEP, qui était cette réduction de production de 1 500 000 barils par jour. Certes, le chiffre est important, mais là-dessus, l'OPEP prenait à sa charge 1 000 000 de barils par jour. Il ne restait plus que 500 000 barils par jour pour 10 pays non-OPEP, dont la Russie. Donc pour la Russie, ça n'aurait pas représenté une réduction de production énorme. Donc on change complètement de paradigme, et cela s'est passé dans les derniers jours. Mais certains pays producteurs produisent déjà à 100% de leur capacité, donc ne peuvent pas produire plus. L'Arabie Saoudite, elle, produit en dessous de ses capacités de production. Elle peut donc, elle, réellement, ce n'est pas une menace en l'air, si elle le décide, demain, inonder le monde de pétrole.
Et ce matin, Bruno Le Maire, sur France Inter, appelait l'Arabie Saoudite, en tant que présidente du G20, à reprendre la coordination. Mais est-ce encore possible ?
Eh bien, l'Arabie Saoudite, elle, est présidente du G20 depuis décembre dernier. Mais il faut comprendre que le marché pétrolier mondial est une sorte de triumvirat. Au moins, l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis devenus premier producteur mondial en 2018. Et c'est aussi de cela dont il s'agit derrière le refus de la Russie d'enrayer les prix bas. C'est l'opportunité pour elle d'écraser la concurrence du pétrole de schiste américain, explique Le Monde, avec un prix de rentabilité beaucoup plus élevé. Ce qui a de quoi effectivement inquiéter les marchés. Suivre donc Wall Street aujourd'hui.
On passe au bref. Le secteur culturel s'inquiète aussi des conséquences du coronavirus, touché par une baisse de fréquentation inédite.
Oui, moitié moins de réservations que l'année dernière à la même époque, alertait le principal syndicat des entreprises de spectacle musical, le Prodis. Les interdictions de rassemblement entraînent 12 semaines d'annulation de spectacles. Elles concernaient 90 salles quand la limite était de 5000 personnes. Eh bien, c'est beaucoup plus quand elle est à 1000. La dernière à annuler ses représentations, c'est aujourd'hui la Philharmonie de Paris, avec sa grande salle de 2400 places.
Coronavirus encore, l'Allemagne et le Royaume-Uni face au périlleux exercice d'équilibre budgétaire.
Oui, entre relance et balance budgétaire, les autorités des deux pays ont annoncé des mesures de soutien pour les entreprises, certaines déjà prises en France, comme des facilités pour le chômage partiel, des reports ou des allègements de charges, certaines plus massives ou inédites, comme côté allemand 12,8 milliards d'euros pour les infrastructures sur 4 ans, ou une éventuelle intervention de la Banque centrale allemande pour reprendre les dettes des PME, ou encore, côté britannique, un possible assouplissement de la règle plus dure encore que la règle européenne d'un déficit budgétaire de 2% jusqu'ici établi par les conservateurs dont le budget est présenté ce jeudi.
Enfin, le Liban en défaut de paiement historique, et ça n'a rien à voir avec le Covid-19.
Et non, c'est la première fois son histoire, que le pays ne pourra honorer sa dette. En l'occurrence, c'est 1,2 milliard d'euros d'eurobonds qui devait être payé aujourd'hui, et c'est une situation qui, pour ainsi dire, pendait au nez des autorités après de longues années, une visite ambiguë du FMI et la dette désormais passée à 170% du PIB, 92 milliards de dollars. Effectivement, donc, le coronavirus n'a rien à voir. Le Premier ministre promet des réformes et vise toujours 11 milliards de dollars de la conférence de financement pour le Liban, mais sans encadrement du FMI, eh bien, la presse doute.
Merci Xavier et à demain.
Mon âme est lasse, ne laisse rien passer. Je ne peux me le pardonner.
Alors... Un grand merci Gérard Béor et Laurence Croc de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On mettra les références de vos ouvrages sur la page d'Entendez-vous l'écho. On se quitte avec Mauvais œil de Salam Salomé. Un grand merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Alain de Rocourt, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui Jean-Guilain Mège. Demain,
Demain, nous parlerons donc de la grande peur du déclin chez les classes moyennes. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
Je suis forcée de